Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Mali va-t-il participer pour la première fois à une Coupe du Monde de football? Réponse dans une dizaine de jours. Les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage de Tunisie doivent livrer une double confrontation qualificative pour le Mondial Qatar 2022. Le match aller est prévu ce 25 mars au stade du 26 mars de Bamako et le retour 4 jours plus tard en Tunisie. Comment le Mali prépare ses matchs de barrage? Les Aigles ont-ils tiré les enseignements de l'échec à la CAN Cameroun 2021, une première qualification du Mali à la Coupe du Monde est-elle possible cette année? Éliminatoire mondial 2022, comment le Mali prépare la double confrontation contre la Tunisie? Nos invités sont Souleymane Diabaté, président de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, Drissa Nyono, journaliste sportif à Radio Rempart, et Djelika Guindo, également journaliste sportive à Maliba FM et Talent Sport Mali. Je suis Sekou Gadji pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Je signale que la Fédération malienne de football a décliné cette invitation, indiquant que la communication est trop sensible en ce moment. Alors, Souleymane Diabaté, vous êtes le président de l'UNASAM. Comment les supporters maliens préparent cette double confrontation Mali-Tunisie?
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer vraiment vos téléspectateurs, parce que là, c'est un événement exceptionnel, comme on le dit, parce que le Mali n'a jamais été aussi proche d'une qualification pour une phase finale. Donc c'est pourquoi nous, les supporters, on a pris ça au sérieux et on s'est mis au travail. Donc il y a à peu près 20 jours qu'on a mis une commission en place. Donc cette commission est en train de travailler, nous toujours, donc pour mettre en forme un programme donc d'ici le 25. Donc on est en train de préparer, parce qu'on a même commencé hier, donc les activités hier. Bon, c'est passé peut-être au courant, hier on a organisé une caravane à travers vraiment la ville, à travers toute la ville, et les images vont vous parvenir très bientôt. Donc c'est pour déjà dire à la population qu'il y a un événement spécial et que ça concerne pratiquement tous les Maliens.
D'accord, ça c'est du côté des supporters. Mais ouais, vous, comment vous voyez la préparation de ce match, de cette double confrontation du côté de la fédération, du staff technique? Comment vous voyez la préparation?
Bon, moi je pense que chacun doit jouer sa partition, parce que que ce soit la fédération ou la commission technique, tout le monde est conscient de l'enjeu. Donc chacun à son niveau doit mettre le paquet pour que vraiment la réussite va venir. Donc nous, à notre côté, on est là-dessus. Je pense qu'au niveau de la fédération également et au niveau de la direction technique, donc ils sont là-dessus pour que vraiment cette fois-ci que le Mali vraiment aille à la finale.
D'accord.
À la phase finale.
D'accord. Djelika Guindo, vous êtes journaliste sportive. Vous étiez au Cameroun pour la couverture de la CAN Cameroun 2021. Depuis l'élimination du Mali à maintenant, comment vous appréciez le travail abattu par la fédération, le staff technique pour préparer cette double confrontation?
Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur cette double confrontation du Mali. Et bonsoir à tout le monde. On ne peut pas parler de la préparation, puisque, si j'ai dit on ne peut pas parler de la préparation, l'équipe n'est même pas réunie pour se préparer pour la double confrontation. Maintenant, pour ce qui concerne les alentours des deux matchs, nous avons vu que la fédération, dès la fin de la CAN, la fédération a animé une conférence de presse. C'est pour nous faire le bilan de la CAN. Et aussi, après ça, même si Marasouba n'a pas fait une conférence de presse après CAN, on peut dire que Marasouba s'est sorti de demander pardon. Tout ça rentre dans les alentours de la préparation de ces deux matchs. Et aussi, le fait de mettre en place le collège autour de Marasouba, ça aussi, ça fait partie des préparations, mais des préparations hors terrain, on va dire comme ça. Mais en tant que les joueurs ne se réunissent pas, qu'on voit je ne sais pas comment dire ça, qu'on voit comment ils préparent ce qu'ils vont nous montrer sur les terrains.
Oui, mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Parce qu'ils sont pas, ils seront pas les seuls dans cette situation. Je pense qu'aucune sélection n'a eu ce temps de regroupement. Est-ce qu'après la CAN, après avoir passé quelques jours ensemble à la CAN, est-ce qu'ils ne sont pas assez prêts pour affronter cette double confrontation?
Oui, ils sont assez prêts parce qu'ils ont joué ensemble à la CAN. Mais est-ce qu'ils seront ensemble pour les doubles confrontations? Ça, on ne sait pas. On saura demain, après la publication des listes, de la liste de Makassouba. Sinon, tant que l'équipe ne se réunisse pas et que les joueurs sont ensemble, on ne peut pas parler de préparation de l'équipe.
D'accord. Drissa Nyono, comment vous appréciez les préparatifs de ces matchs de barrage?
Bon, je pense que d'abord, la fédération a pris de l'avant. Et d'abord en organisant le 16 février cette conférence de presse et par son président, je vais parler de Mame Touré Bavieu. Donc ensuite, je pense que les enseignements ont été tirés, à mon avis, parce qu'on a vu à la CAN que quelque part il y a eu déficit d'accompagnement qui a été corrigé, d'accompagnement de l'entraîneur à un certain niveau. Parce qu'on a remarqué au sein de certains staffs des anciens joueurs qui avaient apporté leur vécu aux joueurs qu'ils côtoyaient au fur et à mesure de la compétition. Et je pense que c'est vrai que même à côté de Makassouba, il y avait Fousseni. Mais je pense qu'au-delà de Fousseni, s'il y avait également d'autres anciens joueurs qui pouvaient apporter également leur discours, surtout lors de la mi-temps, ça pouvait changer quelque chose. À mon avis, je pense que la fédération a quand même pu tirer cet enseignement-là. Elle a parlé de collège d'entraîneurs et non d'anciens joueurs, mais en regardant le collège qui va accompagner le sélectionneur Mohamed Makassouba, on se rend compte que ce sont des anciens joueurs. Et parmi ces anciens, on a un seul qui a la licence IFOA, qui est Fred Oumar Kanouté. D'accord. Et je pense que, et à travers d'abord la décision prise d'accompagner le sélectionneur d'abord, quelque chose, ça rentre dans le cadre de la préparation. Maintenant, au-delà de ça, il y a des pourparlers qui ont été engagés avec des joueurs qui n'y étaient pas. Et je pense que des décisions ont été prises et des annonces seront également faites lors de la publication.
D'accord,
de la liste.
D'accord, on va revenir par rapport au collège d'anciens joueurs et même aux discussions avec de binationaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la même inquiétude que Djelika du fait qu'il n'y a pas eu de regroupement de l'équipe après la CAN? On sait que voilà, chaque joueur s'est rendu dans son club, il n'y a pas eu de regroupement. Est-ce que on est sûr que les joueurs ont pu surmonter cet échec-là de la CAN pour faire face à cette confrontation?
Alors, donc, après la CAN, l'inquiétude qu'on a, et par rapport aux joueurs surtout, c'est que le secteur où on a pêché, où on n'est pas parvenu à marquer énormément de buts, c'est dans ce secteur également où des joueurs n'ont pas eu assez de temps pour essayer de s'exprimer sur le terrain. Là, ça peut être une inquiétude par rapport aux joueurs qui étaient présents. Maintenant, au-delà d'eux, il y a d'autres joueurs également qui n'étaient pas à la CAN, qui sont des Maliens et qui font des belles prestations. Et on espère que, lors de la publication, on va voir ces joueurs qui n'ont pas participé à la CAN, mais qui ont de l'expérience et qui savent également marquer des buts, vont être appelés pour accompagner l'équipe et vraiment pallier à ce déficit qu'on a eu à la CAN.
D'accord. Souleymane Diabaté, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali. Nous n'avons pas pu avoir un représentant de la fédération sur notre plateau ici. Mais vous, sur le plan organisationnel, comment vous voyez les choses? Est-ce que tout est fin prêt?
Bon, avant de répondre à votre question, je reviens un peu en arrière sur ce qui ne va pas, donc auquel a été l'handicap pendant la CAN. Bon, est-ce que tous les enseignements ont été tirés? Parce que vous savez que pendant les éliminatoires, cette équipe-là nous avait embarqués. Donc on était tous conscients, on était tous sûrs que vraiment l'équipe-là ira jusqu'à la... En tout cas, nous les supporters, on croyait jusqu'à la finale. Mais depuis le premier match, on a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis le premier match. Bon, maintenant... S'ils ont fait le diagnostic, est-ce que le diagnostic a été très bien fait? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui a empêché?
Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, est-ce que c'est fait? C'est fait. Pourquoi on n'est pas allé à la finale? Et si c'est bien fait? Parce que c'est très important. On a pêché à la CAN, c'était la désillusion. Bon, maintenant, pour aller encore à la Coupe du Monde, il faut être prêt. Donc, il faut faire un diagnostic sérieux. Parce que pour moi, faire venir tel joueur, bon, pour moi, bon, c'est une bonne chose. Mais il faut le faire très bien. Sinon, on aura encore cette désillusion.
Donc, vous ne pensez pas que le collège d'entraîneurs ou d'anciens joueurs...
Le collège d'entraîneurs, moi, je disais, le collège d'entraîneurs, c'est bon. Mais est-ce que ce collège d'entraîneurs, est-ce qu'il est mis en place? S'il est mis en place, est-ce que ce collège-là s'est entretenu avec l'entraîneur national? Est-ce qu'ils ont visionné les matchs? Donc, pour mettre la stratégie en place. Donc, c'est ça. Si on met un collège-là, donc d'abord, ils viennent à Magasuba. Donc, on essaie, on visionne les matchs. Donc, là, on voit, ils voient ensemble ce qui n'a pas marché. Bon, maintenant, en compensation, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que ça doit être un travail préalable. Donc, faire ça, et puis, comme ça, ils viennent gagner. Donc, la stratégie, mais si on attend la dernière minute, bon, pour moi, ça, c'est un peu tardif.
D'accord. Delika Guindo, parlons toujours de la CAN. Hein. On sait que, comme le président Diabaté l'a dit, beaucoup de Maliens quand même misaient sur cette sélection. Mais malheureusement, on est sorti en huitième de finale comme lors de la précédente CAN. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous qui étiez au Cameroun?
Alors, si on dit à un journaliste de dire ce qui n'a pas marché, il va dire quelque chose qui va plaire à d'autres ou dire quelque chose qui ne va pas plaire à d'autres. D'abord, c'était une CAN très, très difficile. Si j'ai dit que c'était une CAN très, très difficile, on a vu, pas seulement les matchs du Mali, qu'il y avait beaucoup de difficultés de marquer des buts. Je peux dire, à part l'équipe de la Côte d'Ivoire, plutôt du Cameroun, qui marquait plus de buts, les autres avaient des difficultés à marquer des buts. On a même vu que le nombre de buts de pénalty a été augmenté par rapport à l'année précédente. Ça, c'est un. De deux, le Mali croyait que le Mali est tombé dans une poule où c'était facile pour nous de sortir de la phase des poules. Or, ce n'était pas le cas.
Le Mali croyait, quand vous dites le Mali croyait, la sélection, le staff ou bien
la sélection, le staff, les supporters, le peuple malien, tout le monde. La Tunisie, c'est une équipe qu'on connaît déjà. On a joué avec eux avant la CAN. Et la rencontre a été très, très difficile, même si on a dominé la rencontre. Mais les Tunisiens ont su nous maîtriser à la fin de la rencontre. Ce match-là, ils les avaient, ils les ont étudiés. C'est pourquoi on a eu de problèmes à la CAN. La Mauritanie était tellement facile que, voilà, on a pu prendre des points là-bas et on a marqué des buts sans... même si on a marqué un pénalty là-bas aussi. Mais imagine, les buts qu'on a marqués, c'était sur pénalty. C'est vrai, ça fait partie des systèmes de jeu et tout. Mais une équipe qui ne marque pas n'ira nulle part.
Donc le problème, c'était le fait que...
Le fait que l'équipe ne marque
une
pas.
Équipe, une attaque
sinon, on
efficace.
On ne peut pas dire que l'équipe ne joue pas. Mm-hmm. L'équipe joue parce que si tu quittes ton camp pour aller dans le camp adverse, ça veut dire que tu joues. Mais le fait que tu joues, tu ne marques pas, ça sert à quoi? Le problème n'est pas de produire le bon jeu à la CAN ou ailleurs. Dans une compétition, l'esprit qui doit être ancré dans... chez les joueurs, c'est de marquer le but et de gagner. Mm-hmm. Si tu produis le bon jeu, ça va te servir à quoi? Tu vas sortir.
Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de buteur?
Je ne sais pas. Pourtant, les joueurs qu'on a marquent dans leur club à l'extérieur. Mm-hmm. Mais pourquoi ils ne marquent pas chez nous?
Mm-hmm. Ok, on va ça, demander on à Driss Agnone aussi. Lui, il a peut-être une explication
très, très difficile à
cette inefficacité de l'équipe malienne.
Bon, l'explication, c'est un déficit d'expérience. Parce que quand vous regardez le secteur offensif, les joueurs, les attaquants qu'on avait, surtout l'attaquant titulaire, c'était sa première participation à une phase de CAN. Mm-hmm. Et il y a également El Bilal Touré qui revenait en seconde position. Lui, il a pris un carton rouge depuis sa première sortie. Il y a Khalifa également qui était prévu, mais et c'est vrai, il a duré avec l'équipe, mais il n'a pas été productif. Donc, on peut parler de l'inexpérience, surtout au niveau de la pointe de l'attaque. Maintenant, en partant également à la CAN, on avait des joueurs qui, à un moment donné, n'avaient pas ce temps de jeu conséquent qu'ils avaient avant. Et il faut le dire, c'est vrai, c'est un fait. C'est vrai, ça a touché également énormément de clubs avant le début de la compétition. Il y a eu également des problèmes de préparation, il faut le dire. Donc, à rassembler tout ça là, donc ça veut dire que, et quelque part, le manque de préparation conséquent que l'équipe devrait avoir ou se frotter à d'autres formations a manqué. Et l'inexpérience également des joueurs est rentrée quelque part en jeu. Et voilà, on a eu des difficultés devant. Mais par rapport à ça également, il faut dire qu'il y a certains choix, il faut le dire, et qui ont également.
De l'entraîneur,
qui ont également impacté sur le niveau de jeu de l'équipe au fur et à mesure de la compétition. Et ça nous a également, ça a eu également des conséquences, et on a eu, et qu'en fin même du jeu contre la Guinée équatoriale, et c'est les Guinéens même qui commençaient à nous dominer. Voilà, donc c'est rassembler tout ça là, et que je peux dire que quelque part l'inexpérience et surtout les choix effectués par le coach ont eu un impact sur le résultat du Mali.
Donc on peut dire que cette initiative de mise en place de collège d'anciens joueurs là n'est pas mauvaise en soi, ça pourrait apporter un plus.
Oui, ça peut apporter un plus parce que si vous êtes sur le banc, vous n'avez pas la même vision que peut avoir quelqu'un qui est en haut et regarde le match. Et lui, sa vision de voir les choses, surtout le placement de l'adversaire par rapport à votre position de balle dans le vestiaire, il peut également recadrer ça à travers un discours ou dans la production du jeu, ça peut vous servir dans le jeu. Maintenant, je peux dire, c'est pourquoi je dis qu'au-delà du coach, si vous avez d'autres entraîneurs qui accompagnent et qui regarde surtout l'adversaire ou les points faibles de l'adversaire où l'équipe a pu utiliser et faire des résultats, je pense que la mise en place du collège est importante parce que ceux qui sont également cités parmi pour être membres de ce collège ont déjà un vécu avec l'équipe nationale que ces jeunes ont également suivi et dont à leur égard ils ont des respects. Donc je peux dire que si ils parviennent à bien parler aux jeunes, ça peut avoir un impact, surtout dans l'esprit, et pour essayer de galvaniser encore plus les joueurs pour avoir un résultat.
Alors, Souleymane Diabaté, on a vu dans certains pays hein, ce collège d'anciens joueurs, par exemple le Sénégal, ça marchait. On voit des anciens qui sont voilà, autour du staff de l'équipe. Ça marchait. Le Sénégal a pu remporter la CAN. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas chez nous?
Ça peut bien être le cas chez nous. Parce que déjà, ces anciens qui sont là, bon, je pense qu'il y a même des anciens internationaux. Donc, ceux qui jouent maintenant, là, c'est leur petit frère. Donc, il y a certains de ceux-là qui s'identifiaient à ces anciens joueurs-là. Bon, moi, je pense que s'ils sont à côté autour d'eux, bon, je pense que ça peut les galvaniser. Bon, je viendrai un peu en arrière, parce que la désillusion du Mali, là, est-ce qu'on n'a pas été victime de la grande publicité sur notre équipe?
On a surestimé.
Parce que quand on quittait les éliminatoires, oui. Le Mali, sans défaite, combien de buts marqués, donc maintenant, peut-être que les autres là, ils ont bien étudié vraiment notre formation. Parce que déjà, pratiquement tout le monde craignait le Mali. Parce que le Mali, sans défaite ni rien avec, ou un certain, combien de buts marqués sans encaisser, bon, tant que ça a permis, c'est-à-dire que ça a peut-être obligé certains à vraiment faire une étude vraiment de notre prestation et mettre là où il doit profiter. Bon, j'ai dit comme ça, c'est possible.
Parce qu'il y a trop de pubs. Là où on a même été battu, c'était notre 10e match sans défaite.
Voilà.
Malheureusement, on a été battu.
Alors, mais est-ce que souvent on analyse bien quand on regarde même par exemple les éliminatoires de. En tout cas, la phase préliminaire du mondial, où nous étions dans une poule avec des pays comme l'Ouganda, je ne sais pas, le Kenya. Est-ce qu'on n'a pas surestimé? Est-ce que cette équipe-là n'était pas surcotée?
Notre équipe.
Oui.
Donc, ça dit par rapport au groupe là, donc on était en haut de l'échelle.
Tout à fait. On a affronté des équipes relativement, en tout cas. Bon,
maintenant,
faibles.
On peut le dire parce que pour moi, il n'y a pas d'équipe faible maintenant en Afrique. Parce que certains pays l'ont prouvé lors de la CAN. Ceux qu'on considérait comme faibles là, ont posé d'énormes problèmes à des équipes. Donc, oui. Pour moi, vraiment. Il n'y a pas d'équipe faible maintenant en Afrique. Voilà, donc tout le monde doit travailler.
D'accord. Alors, je reste avec vous, Diabaté. Oui. On sait qu'après l'élimination de la CAN, en tout cas, certains n'ont toujours pas pu digérer cette
tout
élimination.
À fait, jusqu'à peu.
À la CAN Cameroun 2021. Il
ouais.
y en a qui disent déjà qu'ils ne feront pas le déplacement le vendredi prochain pour supporter les Aigles du Mali. Vous qui êtes le président des supporters, comment vous allez faire pour mobiliser?
Donc non, ils n'ont qu'à partir. Donc cette fois-ci, je pense que ça sera bon. Donc on a fini avec la CAN. Donc c'est la qualification pour le mondial. Donc qu'on oublie tout ça, qu'on vienne supporter notre équipe. Je pense que si on vient supporter les jeunes là, ils vont faire feu à Bamako ici. Parce qu'ils sont même conscients. Parce qu'ils ont lutté, bon, ils savent ce qu'il y a, ils savent ce qu'il y a. Parce que là, les supporters sont fâchés contre eux. Donc maintenant, il faut les satisfaire. Donc il faut les satisfaire pour que vraiment, dorénavant, qu'il y ait ce mariage-là. Donc ils ont aussi un devoir à remplir vis-à-vis vraiment du public. Donc ils sont conscients de ça. Donc moi, je pense qu'ils vont mouiller le maillot, ils vont mouiller le maillot.
Voilà. D'accord. On a déjà abordé le sujet. Le collège d'anciens joueurs, c'est le mercredi 16 février dernier que le président de la FEMAFOOT l'a annoncé. Hein. Une décision prise après réflexion de tous les membres de la fédération, selon Mamoudou Touré, dit Bavier, que je vous invite d'écouter. Il est au micro de Oumar Waïgalo.
La Coupe d'Afrique a été un échec. Aussitôt éliminé au Cameroun, nous avons tenu une petite réunion avec les membres du comité exécutif qui étaient là-bas pour échanger et faire en sorte que nos propos ne créent plus de problèmes par rapport aux joueurs. Et quand nous sommes venus à Bamako, on a tenu une réunion avec l'ensemble des membres de la fédération pour analyser de façon objective, pour préparer les deux matchs contre la Tunisie. Mais le point essentiel sur lequel nous avons convenu avec l'entraîneur, nous avons proposé qu'on crée un collège autour de l'entraîneur qui va appuyer techniquement pour ces deux matchs.
Alors, ce collège d'anciens joueurs, on l'a dit, c'est composé d'anciens joueurs. La majeure partie n'ont pas de diplôme d'entraîneur pour le moment. Et voilà. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise va pouvoir prendre avec le staff technique pour ce petit temps avant la rencontre de vendredi prochain? Parce que déjà, on ne sait pas, on ne connaît pas les rôles, en tout cas officiellement, on ne sait pas qui va faire quoi, quel va être leur rôle au sein du staff.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, d'abord, moi, jusqu'à présent, moi, je ne connais pas les noms de ce collège-là, les noms des anciens joueurs retenus. Bon, c'est ce que je disais. Je disais, au lieu d'attendre, il faut dès maintenant, d'ici vraiment le match, que l'entraîneur se réunit avec vraiment ces staffs-là, donc voir comment il doit préparer. Comment il doit préparer, ce n'est pas à nous de le dire. Donc, entre eux, donc ils veulent se partager des tâches. Donc, moi, j'ai fait ça. Moi, je prends, par exemple, l'attaque ou bien la défense, ainsi de suite. Si je vois des défenses, donc, je propose. Donc, ça, c'est entre eux. Donc, il faut que. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord travailler en amont. Parce qu'on ne peut pas les amener le jour du match. Allez, bon, vous êtes collègue d'entraîneur, donc, assistez l'entraîneur. Je ne sais pas comment ça sera la cacophonie pour moi.
D'accord. Voilà. Djelika Guindo, est-ce que ce travail a été fait ou bien a commencé?
Bon, on peut dire que le collège a déjà commencé à travailler parce que sur les réseaux sociaux qu'on ne doit pas trop se fier, on voit des noms qui circulent partout, comme quoi ils ont été convoqués, ils ont répondu à la convocation.
Quels sont ces noms-là?
D'abord, il y a Nene Dangerès. Nene, tout le monde connaît Nene.
Non, je parle des anciens joueurs qui seront appelés
en renfort. Des anciens joueurs qui seront rappelés en renfort. Oui. Au niveau du collège,
oui.
Il y a Seydou Kanté, il y a Momo, Seydou Keita, autant pour moi. Il y a Cédric, il y a Frédéric, il y a Momo aussi. Je pense que c'est ces noms-là que j'ai pu maîtriser, les quatre noms. concernant le collège que j'ai maîtrisé, même s'il y a un autre, je ne maîtrise pas beaucoup son nom. Les gens disent qu'il va venir, d'autres disent qu'il ne va pas venir.
D'accord, d'accord. On a vu Cédric Kanté ici récemment.
Oui, il a même participé.
Qui était avec le ministre des Sports, le président de la Fédération. Mais est-ce que les autres ont déjà confirmé et puis quels vont être leurs rôles, Drissa Diouro?
Alors, pour le moment, les rôles n'ont pas été définis, comme a soulevé le président des Sporteurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le premier rassemblement, surtout avec et les joueurs, et ce collège annoncé sera fait le 20. C'est le 20 mars qui a été annoncé où ils vont se rassembler à Kabbalah. Maintenant, par rapport au collège, c'est vrai, comme elle a dit, il y a ces quatre noms qui ont été cités, et Momo Sissoko, Frédéric Oumar Kanouté, Cédric Kanté et Seydou Keïta. Maintenant, comme je le disais tantôt, il y a parmi ces joueurs, il y a seul Frédéric Oumar Kanouté qui a une licence IFOA, considéré être un entraîneur. Donc, quand vous regardez le staff technique malien également, quelque part, si on n'a pas marqué de but, bon, on ne savait pas qui apprenait au jeu. C'est vrai que même s'il peut marquer, mais comment se contenir ou bien comment se placer derrière comme si comme ça ou pour marquer un but, je pense que ces consignes de la part de Kanouté peuvent beaucoup apporter à des jeunes joueurs comme Ibrahima Koné ou d'autres attaquants. Alors, ce sont ces quatre noms qui ont été annoncés et comme elle voulait le souligner, ils ont participé à leur niveau quelque part dans les choix que devrait également effectuer le sélectionneur en fonction des joueurs disponibles maliens qui peuvent également venir apporter leur expérience à l'équipe nationale. Mm-hmm. Et on va également remarquer ça demain ou soit le samedi et dans la convocation des joueurs annoncés par Mohamed Marasouba. En tout cas, pour le moment, dire que tel joueur va occuper tel poste ou tel poste, rien n'a été officiellement, en tout cas pour le moment, défini pour le moment.
D'accord, on attend la liste de Magasouba, vous l'avez dit, demain ou après-demain, d'après les informations qu'on a. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'équipe malienne a besoin de renfort et dans quel compartiment?
Exactement, l'équipe a besoin de renfort au niveau du secteur offensif. Quand vous regardez aujourd'hui par rapport aux joueurs disponibles, vous avez Alamano Traoré qui est considéré être le meneur du jeu, il est blessé. Moussa Doumbia, depuis la fin de la CAN, c'est 17 minutes seulement de jeu. Moussa Dienepo, entre tout, c'est 50 minutes de jeu. El Bilal Touré, attaquant, est blessé. Ensuite, Ibrahima Koné, c'est vrai, il marque, mais il n'est pas titulaire à Lorient. Donc quand vous regardez tout ça, vous vous dites que forcément, quelque part, il faut des joueurs qui ont du temps de jeu et qui peuvent également s'exprimer sur le terrain. Maintenant, au-delà de eux, il y a quand même deux. Quand j'ai parlé d'Ibrahim Koné qui joue, mais il y a Adama Traoré Malouda qui joue avec Sheriff Tiraspol. Il a participé à des compétitions européennes. Mais aujourd'hui, il y a des anciens qui étaient là, qui ont également participé à un niveau aux éliminatoires de la CAN, mais qui, depuis 2019, ne sont plus là, qui ont été également appelés.
Qui sont ces anciens?
Ces anciens, il s'agit de Ablaye Diaby, et le capitaine, et qui n'était pas là depuis 2019. D'après des informations, surtout des amis proches de lui, il a accepté de venir jouer avec l'équipe nationale. Alors, il y a eu des discussions avec Moussa Marega, qui était sceptique à venir jusqu'à présent. Mais hier, nous avons des informations comme quoi que dans les heures à venir, il doit donner également sa position finale sur son retour ou pas. Et on va également le savoir demain ou après-demain dans la convocation de la liste. Oui, et ce sont des jeux. Maintenant, sur le secteur offensif, moi je dis, parce que quand vous regardez et à la défense et au milieu de terrain, on peut dire qu'on a des joueurs confirmés et avec l'embarras même du choix concernant les joueurs au milieu de terrain. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui ont été cités également, comme Salou Guindo. Salou Guindo, il fait partie de la promotion 2015 avec Fanieri. Donc, lui, il était perdu des radars parce qu'il était en Abidjan avec ASEC. Après, il est parti à l'Espérance de Tunis. Il a fait un peu avec Kocian Gorcu en Turquie. Aujourd'hui, il s'exprime du côté de l'Albanie avec l'ASI, où il marque également des buts, 13 buts marqués en 23 sorties. Je pense que ce sont des joueurs également qu'on peut faire appel et qui peuvent également venir apporter leur savoir-faire à l'équipe nationale. Sinon, c'est le seul point au niveau de l'équipe nationale du Mali où moi-même j'ai des inquiétudes, c'est
le secteur offensif. D'accord. Souleymane Diabaté, ce sera la Tunisie qu'on a battue à la CAN. Malgré tout, la Tunisie a montré notre visage contre le Nigeria, par exemple, à la CAN. Mais on sait qu'après la CAN, elle s'est débarrassée de son sélectionneur. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe jouable pour le Mali?
Ah ouais, pas pour la Tunisie est une équipe jouable. Bon, c'est pas maintenant. Si vous vous rappelez, à la CAN 94,
oui.
Le premier match, c'était la Tunisie contre le Mali. Et vous avez vu, on a battu la Tunisie. Donc là, il y a cette psychose-là qui est là encore entre nous, entre la Tunisie et le Mali. Et même la CAN dernière, la CAN là. Bon, Djelika l'a dit, on a pratiquement. Parce que les Tunisiens avaient peur. On a dominé les débats. On a dominé les débats parce que ça, ils avaient peur. Nous, ces jours-là, comme il a dit, si on avait vraiment de vrais attaquants, de grands attaquants, on aurait pu marquer 3 à 4 buts contre la Tunisie. Donc, ils avaient peur. Donc, moi, je suis sûr que c'est jouable et que ces Tunisiens-là, ils ont peur du Mali. Donc, profitons de cette peur-là, de cette psychose-là, donc, pour marquer le maximum de buts. Donc, avec ce que Nyono vient de dire tout de suite là, c'est très important parce qu'effectivement, c'est le secteur offensif. Donc, si on arrive à faire quelques aménagements à ce niveau, parce qu'il ne faut pas toucher toute l'ossature du terrain, de l'équipe, parce que là, c'est important. Parce que dire non, on a invité tant de joueurs, on a invité, parce qu'il y en a tellement sur les réseaux sociaux, moi-même, je me perds souvent là. Non, ça là, ça a été invité, lui, il l'a accepté. Il faut savoir doser. Parce que ces gens-là, bien sûr, on a des problèmes, mais il faut le dire, cette équipe-là, bon, peut-être qu'on a des problèmes, mais on a une bonne équipe. On a une bonne équipe, donc il faut faire beaucoup attention. L'entraîneur doit faire beaucoup attention. Heureusement qu'il est assisté par des anciens. Donc s'il ne fait pas beaucoup attention, il va mettre tout en l'air.
D'accord. Djelika Guindo, êtes-vous d'accord avec Diabaté que le Mali peut bien battre la Tunisie, on le dirait comme ça?
Ça va être très difficile, que le Mali bat la Tunisie. Si j'ai dit ça, parce qu'on a déjà joué contre la Tunisie avant la CAN. La Tunisie avait peur de nous pendant la CAN, mais là, on a joué ensemble. Et on sait comment le match s'est terminé. Et là, on doit jouer pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, les rencontres vont être très, très difficiles. La Tunisie est une équipe qui connaît très bien le Mali.
Le Mali aussi doit bien connaître la Tunisie.
Oui, mais leur façon d'étudier le Mali est différente de notre façon de leur étudier.
Est-ce que vous voulez dire maintenant que la Tunisie a un bon staff technique que le Mali? Parce que quand tu parles d'études, de lecture de jeu, ça c'est le staff technique.
Ça c'est clair.
Oui.
Là, je vais mettre le point sur les i sur ça. Mm-hmm. La Tunisie a une meilleure façon d'étudier notre équipe que nous de leur étudier. Peut-être l'importance de ce collège va être que d'étudier l'équipe de la Tunisie, eux, pendant notre match, pour pouvoir aller les battre chez eux. Sinon, ça va être très compliqué. Mais le problème de collège aussi, c'est quoi? J'ai pas touché à ça. Si on a vu, on voit sur les réseaux sociaux les noms qui ont été cités, qui ont été convoqués et venir. Magasuba, en tant que Magasuba, ne va jamais les appeler, ça c'est clair. Ça veut dire que le collège a déjà commencé à appeler ses joueurs. Et là, ça va poser de problèmes. S'il faut que les gens qui ont commencé les éliminatoires, on les laisse à côté, qu'ils ont, s'ils n'ont pas de temps de jeu, là, on peut comprendre. Mais s'ils ont le temps de jeu, de leur laisser à côté et de faire jouer parce que c'est le collège qui a été mis en place et qu'ils doivent vraiment venir apporter leur soutien, ça va être compliqué.
Oui, mais maintenant, jusqu'ici, c'est les réseaux sociaux qu'il faut prendre avec des pincettes. On ouais, attend la liste de Magasouba.
Mais ça va être compliqué de battre l'équipe tunisienne. D'accord. Si on essaie de préparer le match retour avant de jouer le match aller, en prendre en compte les 4 jours, on peut même dire 3 jours de repos de notre équipe, parce que si on enlève le 25 et qu'on enlève le 29, ça va rester combien? 3 jours. D'accord. Le fait de quitter le Mali pour aller là-bas avec les problèmes de Covid, on va faire comment? On doit prendre le vol commercial ou bien vol spécial. Ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte et avant le match aller, d'accord, pour pouvoir jouer le match retour chez
d'accord,
eux.
D'accord. Drissa,
le ministère a déjà pris des dispositions pour ça. Un vol spécial sera affrété et les joueurs vont quitter le Mali, je crois, juste après le match. Hein. Voilà, juste après le match. Voilà, maintenant,
où va se jouer la qualification de cette double confrontation, la qualification au mondial? Bon, c'est ici ou bien à Tunisie?
Aux deux niveaux, parce que c'est vrai qu'à domicile, on n'a pas perdu depuis 8 ans, il faut le souligner. Et jouer à l'extérieur également, je pense que les joueurs prennent plus de plaisir également à jouer à l'extérieur qu'à domicile, parce qu'à domicile, il y a énormément de pression. On a vu par le passé, surtout lors des éliminatoires même, facilement, les matchs joués au Maroc, où ils sont parvenus à marquer des buts. Et également, bon, on a joué contre le Gabon ici, je crois que le Gabon nous a tenu en échec, mais on est parti à Libreville et les battre et assurer la qualification par le passé. Donc, on a eu ça. Maintenant, pour revenir un peu concernant le match, c'est que ce sera un match compliqué, il faut le dire, parce que la Tunisie, avec un nouvel entraîneur et un nouveau staff technique, a fait également fait appel à des anciens joueurs qui n'étaient pas sous l'ancien coach. Donc maintenant, c'est un staff technique renforcé également par des anciens de 2004 qui ont également remporté un trophée avec la Tunisie. Donc, à notre niveau, je pense d'abord ce travail préalable qui est d'étudier la façon de jouer. Bon, c'est deux formations qui se connaissent. C'est vrai que la dernière fois où la Tunisie nous a battus, c'était à domicile. Et là également, on a joué en infériorité numérique, à peu près 60 minutes de jeu. Et lors de la CAN, on a vu comment également on peut la maîtriser. Mais je pense que le match, il peut se décider au deux niveaux. Mais on espère que les Aigles vont faire le premier pas ici à domicile et aller chercher la qualification du côté du Tunis.
Alors, nous avons la question d'un internaute qui n'est pas très optimiste. Hein. Il demande quelles dispositions ont-elles été déjà prises en cas de répétition du scénario du match Mali-Togo aux éliminatoires du Mondial 2006, hein, quand 2008, le Togo nous a éliminés ici.
2006.
Il s'appelle Momo de Kati, Souleymane Diabaté. Ouais. Vous qui êtes proche de la fédération.
Bon, je pense que ces scénarios-là, non.
On ne le souhaite pas.
On ne le souhaite pas. Parce que c'est pourquoi je dis que les joueurs ont une dette envers. Parce qu'ils ont tout ça en tête, hein. Donc, un déclic ici, là. Donc, ça peut amener vraiment des agissements. Donc, je ne pense pas que cela se répète ici. Parce que déjà, moi, je suis supporter. Hein. Je vous dis, nous, on va gagner ici. Voilà, donc, il n'y aura pas de problème. Et les gens vont fêter.
D'accord.
Voilà. Soyons optimistes.
Exactement.
Voilà. Il faut qu'on soit optimiste.
Vous allez gagner ici. On va parler du match retour aussi. Est-ce que vous avez l'assurance que vous pourrez mobiliser assez de supporters pour aller les soutenir?
Non, on va mobiliser. Parce que, bon, je sais qu'en Tunisie, il n'y a pas tellement de Maliens. Il y a quelques étudiants. Bon, là, quand même. Bon, parce que nous dépendons aussi du ministère des Sports. Parce que là, avec un affrètement, moi, je pense qu'on peut faire déplacer quelques supporters. Donc, pour aller vraiment encourager vraiment les joueurs là-bas. Donc, c'est possible. Mais La solution, c'est au niveau du département. On a déjà fait la demande. On attend. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne ce que ils ont dit, ce que Jelika a dit, par exemple, donc ce que lui l'a dit, c'est-à-dire il faut faire le maximum ici. Donc maintenant, le maximum, maintenant, le match retour, ça sera un travail technique. Un travail vraiment technique. Donc au vu du résultat de Bamako, vraiment, les encadreurs là doivent vraiment faire un travail énorme. Un travail énorme. Comment vraiment maintenir, comment briser vraiment l'élan vraiment des Tunisiens là-bas. Donc pendant ces deux ou trois jours-là, ils doivent énormément travailler. Donc voir les moyens, comment vraiment contrer vraiment au vu du résultat de ça.
D'accord. Nous voyons que quand même les joueurs sont déterminés pour ces deux rencontres. On a vu des internationaux qui sont en train d'acheter des billets pour les offrir aux supporters pour qu'ils puissent aller les soutenir. Est-ce que c'est une bonne initiative, vous, en tant que président?
Vraiment, c'est une première cette fois-ci. Bon, c'est une première. Hein.
Donc, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est très bon. Ça montre que vraiment tout le Mali, surtout au niveau des joueurs, des anciens joueurs, ils commencent à s'intéresser vraiment au football malien. Parce que c'est très important. Et on a vu ça dans certains pays. On a vu ça dans certains pays, tout dernièrement à la CAN. Sadio Mané, il a fait déplacer 50 supporters à ses frais. Donc maintenant, si nous, surtout celui qui est un ancien capitaine, donc il met à la disposition des supporters 5000 billets, vraiment, c'est vraiment une bonne chose.
Oui.
Donc c'est une très bonne chose. Mais je voulais ajouter parce que la destination, parce que c'est lui, il a déjà, on sait déjà la destination de ses billets. Parce que comme on dit qu'il va donner ça aux six communes. Donc moi je dirais que c'est une bonne chose. Hein. Pour moi je sais que nous les supporters, on est avec ces joueurs là partout. Partout ils vont, on se débrouille, on se déplace pour aller les supporter.
Donc les billets là, ce n'est pas à vous qu'on va les
remettre. Non, ce n'est pas à nous. Il y a déjà, ce n'est pas à nous.
D'accord.
Bon, et le billet de l'autre là, de mon petit chien là, lui, il a déjà donné ça à ses fans.
Oui.
Donc à ses fans. C'est seulement les billets de Munkoro. Donc il a dit destiné aux supporters. On ne sait pas quand. Parce que nous, on n'est pas associé vraiment à la distribution de ces billets là.
Bon,
parce que nous connaissons, nous savons, nous connaissons les vrais supporters. Les vrais supporters, il ne s'agit pas de distribuer ça aux gens qui vont aller s'asseoir. Il faut vraiment faire bouger la tribune. C'est très important.
D'accord. Djelika Guindo, qu'est-ce que ça vous inspire? Tout de suite, je vous donne la parole. Djelika Guindo, le fait que des joueurs en activité et même des anciens joueurs aussi offrent des billets aux supporters, qu'est-ce que ça vous dit? Ça montre qu'ils sont vraiment déterminés.
Oui, ils sont déterminés. Ils veulent que le Mali, la population...
Ils veulent faire oublier l'échec de la CAN.
Oui, l'échec de la CAN pour que les gens puissent sortir et aller leur soutenir. Mais le problème de distribution des billets, c'est quoi? Comme le président des supporters l'a dit, Sérou Keïta est allé voir la fédération pour dire tel billet je vais acheter, je veux que ça soit distribué à ce niveau. Pour ce qui concerne Moussa Djenepo, on peut dire qu'il a fait de bonne volonté, il a fait pour ses fans, mais est-ce qu'on ne va pas mettre l'accent sur lui, ses billets? Est-ce qu'il n'a pas fait pour influencer un peu le staff à lui sélectionner? On sait très bien qu'il n'a pas de temps de jeu depuis la CAN jusqu'à maintenant. Ça nous donne à réfléchir.
Oui.
Le fait de distribuer les billets comme ça, ça n'influence pas sur le sélectionneur pour qu'on puisse les sélectionner.
Est-ce que ça doit avoir une influence, ça doit pouvoir influencer le sélectionneur, Drissa?
Je ne pense pas. Parce que bon, il faut le dire, hein, au-delà de tout, c'est un cadre de l'équipe, même s'il est en difficulté aujourd'hui. Et c'est un cadre de l'équipe, il a fait de façon volontaire. Et bon... Je ne sais pas et ce qui l'anime à le faire.
Ces gestes, mais pas au niveau du football.
Je ne peux pas le juger de telle sorte, mais quand même, il faut dire que c'est un très bon geste et qui peut également permettre à d'autres d'aller regarder et soutenir les Aigles au stade 26 mars.
Alors, Mali-Tunisie, c'est le 25 mars au stade du 26 mars pour le compte du match aller des barrages qualificatifs pour le Mondial Qatar 2022. Le match retour, ce sera le 29 en Tunisie. Et c'était le débat du grand dialogue de ce soir. On parlait de la préparation de ces deux rencontres avec nos invités que nous remercions ici, Souleymane Diabaté, président de l'Union nationale des supporters du Mali, Drissa Nyono, journaliste sportif, et Djelika Guindo, également journaliste sportive. C'était à la présentation de ce grand dialogue Sekou Gadjigo, mise en onde Mamadou Ouattara, régie vidéo Gagny Kanté. Merci à toutes et à tous et nous souhaitons bonne chance aux Aigles pour ce premier match le 25 mars prochain et à demain pour un autre numéro du grand dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halou Dmoun.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.